force de prêcher les exercices, j'ai fini par me rendre compte de ce qu'il y avait d'essentiel dans les exercices. Et il me semble que je commence à percevoir ce qu'on pourrait appeler le secret des exercices. La méthode de conversion des exercices de Saint-Ignace a été toujours recommandée par les papes. Vous connaissez la fameuse phrase de Pie XI, le code le plus sûr et le plus universel du salut des âmes. Or, quand on ouvre le livre des exercices, c'est très déroutant. Vous voulez, un intellectuel qui ouvrirait le livre a de quoi être très déçu. Il n'y a rien là-dedans. Enfin, pratiquement, qu'est-ce que c'est ? Une série de méditations. Et sur des sujets qui sont extraordinairement banals. Il y a le péché, notre Seigneur Jésus-Christ, la passion, la résurrection, et puis la contemplation pour obtenir l'amour de Dieu. Et il y a dans les exercices une insistance qui peut paraître bizarre sur des détails qui paraissent secondaires. Or, c'est un fait d'expérience, je l'ai constaté en prêchant les retraites, puisque c'est quand même un fait d'expérience depuis plusieurs siècles. Les exercices, quand on les fait bien, exercent une emprise psychologique qui est très forte. C'est très curieux. Alors que c'est banal. Mon Dieu, dans tous les sermons que vous entendez d'un bout à l'autre de l'année, vous entendez ce que vous entendez dans les exercices. Et pourtant, les exercices exercent une emprise psychologique qui est très forte. Ils investissent réellement le sujet. Ceux d'entre vous qui ont fait les exercices, vous avez dû constater, surtout si vous avez fait pour la première fois les exercices et que c'était une conversion, arrivant de presque zéro ou ignorant presque toute la religion catholique, eh bien, il y a pratiquement un investissement de l'âme, en sorte que l'âme est pratiquement tirée en avant, bon, jusqu'à bon, connaître la religion catholique. Et il y a des résultats qui sont très nettes. Là encore, mon expérience de prédicateur m'a permis de constater, de confesseur disons, m'a permis de constater, quand je vais confesser à Saint-Nicolas, je reconnais, donc il y a facilement une centaine de personnes dans la journée entre le matin et le soir. En général, je mets au confessionnal le matin, il y a toute la matinée du dimanche, même pendant les messes et jusqu'au soir au vêpre. Eh bien, pratiquement, en entendant quelqu'un se confesser, je reconnais quelqu'un qui a fait les exercices de Saint-Ignace. Et alors ça se reconnaît à une chose, c'est l'intelligence qui est structurée de façon stable, la vie spirituelle qui ne présente pas de lacunes, et qui a une harmonie et une plénitude qui fait reconnaître chez quelqu'un de fervent. Il y a une différence entre quelqu'un de fervent qui a fait les exercices et puis quelqu'un de fervent qui n'a pas fait les exercices. Et ce qui se reconnaît, ce qui se manifeste principalement, c'est cette rigueur dans le service de Dieu. Vous voyez, bon, voilà à peu près. Ça fait d'expérience, ces exercices, quand on les fait, on a la sensation d'être véritablement investi et puis tiré en avant, et il y a des effets pratiquement dans la mise en ordre de l'intelligence. Or, en apparence, les moyens utilisés n'ont pas de proportion. En apparence, c'est très banal. Qu'est-ce que c'est d'autre que une réflexion après un sermon? Et les sujets de sermon, rien d'autre que des choses quelconques, finalement, votre catéchisme. Ouvrez le catéchisme des diocèses de France que vous avez pu avoir quand vous étiez jeune. Eh bien, on commence par quoi? Il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un pur esprit infiniment parfait, créateur du ciel et de la terre. Et puis, vous avez le péché d'Adam. Et puis, vous avez les commandements. Puis ensuite, eh bien, pratiquement, donc, des choses banales. Or, ce qui est très curieux, comment se fait-il que ces choses banales, qui sont rien d'autre que ce qu'on entend en prédication dans n'importe quelle paroisse, puissent produire un effet pareil sur les âmes, et cela depuis des siècles. Ce que les protestants, pays protestants, redoutaient par-dessus tout, c'est la venue des jésuites, parce que même sans église, même sans culte public, les jésuites donnaient en secret les exercices, et ils n'arrivaient pas à comprendre, mais les gens se convertissaient. Et puis c'était stable. Et on n'avait plus de prise sur ces gens devenus catholiques, même quand ils n'avaient plus de prêtres ou même quand ils étaient privés longuement des sacrements. En Angleterre, pratiquement, un jésuite, si jamais il était pris, on lui coupait la tête. Il était arrêté, on lui coupait la tête. Ils avaient une peur bleue à cause de l'efficacité des exercices. Eh bien, il me semble qu'à force de les prêcher, j'ai fini par comprendre quel était le secret des exercices, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel, d'où vient la force principale des exercices. Il y a des choses secondaires qui tiennent au caractère de Saint-Ignace, dont je ne vous parlerai pas d'ailleurs. Et puis il y a des choses qui sont essentielles, et j'espère que ça pourra vous être profitable parce que je vais vous parler non seulement des exercices, mais en fait je vais vous parler aussi de la pédagogie de la grâce telle qu'elle se manifeste dans la Bible. Les exercices suivent les mêmes étapes que celles qu'on trouve dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Les étapes dans lesquelles l'humanité, et en particulier le peuple juif, a été rendu capable de comprendre le Sauveur et de le recevoir, eh bien, elles sont supposées une succession de dispositions que Dieu a préparées les unes derrière les autres et qui nous ont rendu capables de comprendre le Sauveur. Et quand cette préparation longue, très longue, a été faite, eh bien, finalement, tout s'est passé très vite. Vous voyez, entre le début de la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ et la Pentecôte, qui est le début de l'Église, il s'écoule 3 ans. En 3 ans, d'un seul coup, toutes ces pièces qui avaient été patiemment mises en place, soudain prennent vie et ça devient l'Église. Eh bien, en fait, le secret des exercices, il est là. Les exercices reprennent la pédagogie de la grâce telle qu'on la trouve dans la Sainte Écriture. C'est ce que je vais m'efforcer de vous faire toucher du doigt. Et en fait, telle qu'on la trouve dans la liturgie catholique, telle qu'on trouve dans la messe, telle qu'on la trouve aussi dans le temps liturgique. En fait, le temps liturgique a la même structure que cette succession de méditation des exercices. La messe a la même structure, c'est-à-dire cette même succession de dispositions de l'âme par rapport à Dieu qu'on trouve dans les exercices. Et alors, bon, ce sera ma conclusion, c'est là qu'est le secret des exercices. Et c'est ainsi que j'ai fini par comprendre le pourquoi de certaines paraboles un peu déroutantes qu'on trouve, que je prêchais, on m'avait appris à prêcher les exercices, je le faisais par imitation de ce que j'avais reçu du père Variel, du père Augustin, qui eux-mêmes transmettaient l'héritage du père Vallet. Et j'ai compris, c'est à force de voir les effets dans les âmes que j'ai compris pourquoi les méditations de l'appel du roi, des étendards, des trois classes, qui sont curieuses, on se demande exactement pourquoi elles sont là. Je me suis rendu compte à quel point elles sont des charnières, vraiment des pièces maîtresses. Et elles se comprennent bien qu'à la lumière de l'Ancien Testament. La préparation à la venue du Sauveur et puis ensuite le Sauveur lui-même. Alors avant de vous parler des exercices, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais essayer de vous faire sentir ce qu'est, vous faire sentir, c'est-à-dire par des analogies, ce qu'est l'élévation d'un être humain déchu par le péché originel à l'ordre surnaturel. Parce qu'en fait, c'est à ça que servent les exercices. C'est la machine à disposer l'être humain à recevoir la vie de la grâce. Alors, il y a des obstacles à cette compréhension. Si je vous fais ce préambule avant d'aborder le vif du sujet, c'est qu'il y a des petites difficultés, deux obstacles psychologiques. Le premier obstacle, vous comprendrez mieux le schéma des exercices si vous comprenez bien les obstacles. Le premier obstacle, se rendre compte de ce qu'est l'élévation d'un être humain à l'ordre surnaturel, c'est que nous ne saisissons pas bien ce qu'est le péché originel. Nous ne saisissons pas bien ce qu'est cette déchéance originelle parce que nous n'avons jamais eu l'expérience de l'état d'innocence. Vous comprenez, nous sentons bien qu'il y a en nous un certain désordre, le désordre de la concupiscence, le scandale de la mort, quand il y a un proche qui meurt, on sent que quelque chose, c'est pas normal, on ne devrait pas mourir. Et pourtant, on vous dit, mais non, biologiquement, c'est normal. Et tout être humain a cette expérience-là, on sent, mais non, ça ne devrait pas. Et c'est vrai, la mort est le châtiment du péché originel, comme ça qu'on arrive à expliquer. Et puis nous avons en nous, nous savons très bien que nous sommes capables de donner des bons conseils aux autres, et nous ne sommes pas capables de nous les appliquer à nous-mêmes, ces bons conseils. Vous voyez, on est raisonnable pour les autres, on ne l'est pas pour soi. Et c'est la concupiscence. Saint Paul disait, je vois ce qui est bien, et je ne le fais pas. Je fais ce que je désapprouve, et je ne fais pas ce que j'approuve. Mais ce sont des indices. En fait, nous n'avons pas l'expérience de cet état initial de l'être humain. On n'a jamais été dans l'état d'innocence avant le péché originel. Et alors, nous avons bien du mal à saisir exactement ce qu'est le péché originel. Alors c'est le premier obstacle, cette restitution de l'être humain à la vie de la grâce. Nous avons du mal à bien saisir ce que c'est parce que nous ignorons l'état initial. En tout cas, nous n'avons que des indices pour le percevoir. Et le deuxième obstacle, c'est que nous sommes encore plus incapables de sentir et de comprendre qu'est-ce que c'est que la vie divine. L'élévation à la vie surnaturelle nous greffe sur la vie divine. Je prends les comparaisons de l'Évangile. Vous savez, notre Seigneur dit « Je suis la vigne, vous êtes les serments ». C'est-à-dire que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de créer en nous la participation à la vie divine. Et la vie divine, c'est un mode d'existence qui nous est absolument différent. Autant il est impossible à un caillou de devenir un être vivant, autant il est impossible à un être humain, concevoir, un caillou ne peut rien concevoir, autant il est impossible à un être humain de concevoir qu'est-ce que c'est que la vie surnaturelle. Autrement dit, tant qu'on n'a pas une certaine expérience par notre propre vie de piété, notre propre vie intérieure, de cette lumière qu'on a en soi, de cette joie de vivre, cette raison de vivre qu'on trouve en soi, qui est le petit commencement du ciel sur la terre, tant qu'on n'en a pas cette expérience, il n'y a rien qui peut décrire. Et quelqu'un qui n'a pas l'expérience ne peut pas le comprendre parce que ça nous dépasse. On ne peut comprendre ce qui est en dessous. Vous pouvez démonter un moteur puis comprendre comment ça marche, parce que ça, c'est le fruit de l'invention humaine. À la rigueur, on arrive à comprendre comment fonctionnent les instincts d'un animal en les observant bien. C'est pas nous qui avons fabriqué les animaux, mais enfin, on domine ça avec notre intelligence. Un être humain qui est notre égal, on arrive à le connaître, mais il y a toujours une part de mystère. Même entre époux, il y a une part de mystère, même s'ils se connaissent très très bien. Parce que d'égal à égal, si vous voulez, l'intelligence ne peut pas dominer son objet. Mais quand il s'agit de Dieu qui est au-dessus de nous, l'intelligence est radicalement incapable. Alors, vous voyez, le deuxième obstacle pour comprendre l'élévation de l'ordre l'être humain à l'ordre surnaturel, pour le sentir, pour avoir cette perception presque vitale, vécue, dont, et c'est de ça que je vais vous parler en vous parlant des exercices. L'obstacle, c'est que nous ne pouvons pas bien comprendre. Alors la première disposition, je vais essayer de vous mettre sur la voie, la première disposition de l'âme pour recevoir la grâce, c'est la foi. Vous vous souvenez de votre catéchisme, c'est une disposition intellectuelle antécédente à l'infusion de la grâce sanctifiante. La foi est d'abord l'adhésion de l'intelligence à un certain nombre de vérités. L'adhésion de l'intelligence à un certain nombre de vérités à cause de l'autorité de Dieu. Vous vous souvenez de la définition du catéchisme. C'est-à-dire qu'il y a, un contenu intellectuel minimum sans lequel il n'y a pas de vie surnaturelle possible. L'enseignement commun, l'enseignement de saint Thomas, mais c'est l'enseignement commun des pères de l'Église, est qu'il doit y avoir au minimum la connaissance des trois mystères de la foi, l'incarnation, la rédemption et la Sainte Trinité. Et il y a implicitement, avec ces trois mystères de la foi, la connaissance du jugement, de l'immortalité de l'âme, du ciel, de l'enfer, la croyance en la vie éternelle, mais qui peut être implicite ou formulée de façon imparfaite. Cette connaissance intellectuelle a quelque chose de particulier, c'est que c'est sur elle que va petit à petit se développer la vie surnaturelle. Pour ceux qui font joujou avec un ordinateur, elle tient le même rôle que le DOS sur un IBM, c'est-à-dire que les logiciels sont non fonctionnels si vous n'avez pas le système de gestion du disque sur la machine. C'est en quelque sorte la structure fondamentale à partir de laquelle se cristallise et se développe toute la vie surnaturelle. Et alors, la foi, plus elle grandit, si vous voulez, plus la vie surnaturelle grandit, plus la foi devient quelque chose de vivant, qui devient la racine, la structure, la colonne vertébrale de notre vie. Et les premiers éléments de la foi qui prennent vie en nous, eh bien, ce sont les premières étapes des exercices. Alors, je voudrais vous mettre sur la voie, parce que ça vous paraît peut-être un peu abstrait, ça. La première connaissance d'un enfant pour devenir pleinement humain, qu'est-ce que c'est? C'est connaître papa et maman. Alors cette connaissance, c'est une connaissance intellectuelle. Plus il grandira, plus cette connaissance intellectuelle, plus il comprendra ce qu'est le dévouement de ses parents, plus il comprendra la dette qu'il a envers eux, plus il comprendra ce qu'il a reçu d'eux. Mais au départ, c'est quelque chose de très élémentaire, c'est simplement un lien, et ce lien, c'est d'abord une connaissance. Il reconnaît son père, il reconnaît sa mère. Le fait qu'il y ait la gratitude, des devoirs d'obéissance, les raisons pour lesquelles il faut obéir, les raisons pour lesquelles les parents ont plus d'expérience que lui, plus tard, ça prendra vie en lui parce qu'il sera capable de comprendre. Mais au départ, vous avez une simple connaissance très fruste qui contient virtuellement ce qui se développera plus tard, au fur et à mesure qu'il grandira et qu'il mûrira. Eh bien, voyez, pour la foi, il y a un minimum de connaissances, connaître Dieu, non seulement comme notre Créateur, mais comme notre Rédempteur. C'est ces trois mystères. Et alors il se développe petit à petit de la même manière qu'un enfant ne connaît parfaitement son père et sa mère, sa dette envers eux et ce qu'il a reçu d'eux, que quand il est devenu adulte, c'est-à-dire quand il jouit de tout ce capital qu'il a reçu de ses parents. Et alors la vie surnaturelle se développe en nous, en quelque sorte, en donnant la vie. Au départ, la foi est un ensemble de connaissances qui sont spéculatives et qui, petit à petit, finissent par devenir la racine de nos motivations, notre manière de vivre, notre raison d'être. Évidemment, et quand la vie surnaturelle a fini par pénétrer notre vie, la foi va avec l'espérance et va avec la charité. Au départ, la foi est une connaissance intellectuelle, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas une connaissance spéculative comme le théorème d'Euclide. Il y a au moins certains éléments qui, au départ, deviennent la raison de vie. Et puis, petit à petit, ils prennent vie. Et alors, que font les exercices ? Les exercices sont l'éducation à la vie surnaturelle et sont les étapes des méditations donnent vie à notre foi, pratiquement. Alors, il y a, si vous avez déjà fait joujou avec un ordinateur, vous savez que quand vous faites entrer le logiciel système, eh bien, il faut rentrer les disquettes dans un certain ordre, sinon ça ne marche pas. Vous commencez par mettre les disquettes init numéro 1, et puis etc., etc. Eh bien, il en est de même pour la vie surnaturelle. Il y a un ordre dans lequel l'être humain déchu arrive à découvrir son Dieu. Et cet ordre, il n'est pas modifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par la fin. Quel est cet ordre ? Eh bien, cet ordre, vous l'avez dans la Bible. Comment est-ce que Dieu a pris les hommes et les a amenés tout doucement à désirer le Sauveur ? Et pourquoi pouvait-il désirer le Sauveur ? Eh bien, c'est la première étape des exercices dont je vais vous parler. Elle se résume par deux phrases que vous trouvez dans l'Ancien Testament et qui sont citées par le Concile de Trente à propos du décret sur la grâce. Premièrement, converti mini admet ego convertam ad vos, dans Zacharie, convertissez vers moi, tournez-vous vers moi et moi je me tournerai vers vous. Et la deuxième phrase qui est dans les Lamentations de Jérémie, tournez-nous vers vous, Seigneur, et nous nous tournerons vers vous. Alors vous avez ces deux phrases qui paraissent un cercle vicieux. Ce n'est pas tout à fait un cercle vicieux, parce que c'est deux réalités identiques, mais à deux niveaux différents. Nous tournons vers Dieu parce que Dieu nous attire vers lui. Mais ça ne se fera pas sans notre volonté libre. Vu du côté de Dieu, c'est bien lui qui a l'initiative parce qu'il est le Créateur. Mais ce désir qu'il tourne vers lui, c'est nous qui allons l'exercer. C'est-à-dire, si nous nous tournons vers Dieu, eh bien, quand nous tendons la main, notre main ne reviendra pas vide. Mais si nous avons tendu la main, c'est que Dieu nous a donné ce mouvement de confiance qui fait qu'on a tendu la main en pensant que notre main ne rendrait pas vide. Où est l'initiative ? Vu du point de vue de l'homme, c'est quand même nous qui tendons la main. Vu du point de vue de Dieu, c'est Dieu qui nous meut vers lui. Et alors ces deux phrases qui sont citées par le Concile de Trente en résumant l'action de la grâce dans l'âme, je vous les répète, elles vous résument la pédagogie de la grâce dans l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 1er, tournez-vous vers moi et moi je tournerai vers vous. Et dans les Lamentations de Jérémie, tournez-nous vers vous, Seigneur, et nous nous tournerons vers vous. Alors, je vais vous maintenant, après cette introduction, j'espère que ce n'est pas trop confus pour vous, après cette introduction, je vais vous parler des exercices. C'est ça, les exercices. Les exercices, c'est Dieu qui tourne l'âme vers lui, mais c'est l'âme qui se tourne vers Dieu. Et il y a un ordre. Et je vais vous parler de cet ordre. Le titre de cette conférence était « Pédagogie de la grâce ». Eh bien, c'est de cet ordre que je vais vous parler. Il y a un ordre dans lequel nous arrivons à nous approcher de Dieu alors que nous partons au point de départ comme pécheurs. Et on peut dire que la pédagogie divine se développe surtout après Abraham, parmi les générations après le déluge post-diluvienne. Parce que dans les générations antédiluviennes, le bon Dieu a pu sauter certaines étapes. La mémoire de l'état originel et la mémoire de la chute originelle dans les premières générations des patriarches était encore proche. La très grande longévité des patriarches faisait que, vous savez, au moment du déluge, si on regarde la chronologie de la Bible, Adam était mort depuis 200 ans. Il n'est pas très... Non, au moment de la naissance d'Adam, Adam était mort depuis 200 ans. Bon, elle n'est peut-être pas, cette chronologie n'est peut-être pas à prendre strictement à la lettre, mais donne un ordre de grandeur. Et vous voyez, dans ces générations, le souvenir de la chute et le souvenir de l'état antérieur étaient encore suffisamment proches pour que Dieu puisse tout de suite leur dire « Je vous promets un sauveur. Faites tout ce que vous pouvez et je vous promets que ce ne sera pas vain, je vous promets un sauveur. » Alors qu'après le déluge, entre Noé et Abraham, il s'écoule à peu près 2000 ans, d'après la chronologie biblique, entre Noé et Abraham, après le déluge, les hommes sont tombés dans l'idolâtrie, ils ont complètement oublié l'état d'échéance, l'état de justice originel, l'état d'échéance, et alors c'est justement à partir d'Abraham qu'il devient intéressant de voir comment ces hommes déchus, qui n'imaginent même pas que ça pourrait être autrement, qui n'imaginent même pas qu'on pourrait sortir du péché, comment Dieu va-t-il les amener à désirer la grâce qu'il veut leur donner, à désirer le Sauveur. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu va tourner les hommes vers lui pour que les hommes, eux, se tournent vers lui. Vous voyez, autrement dit, la pédagogie divine commence vraiment à Abraham. Et alors, comment est-ce que la Sainte Écriture nous décrit les premières étapes? Je vous résume ce que je viens de vous dire par trois citations de la Sainte Écriture. Genèse 6, juste avant le déluge, « Toute chair avait corrompu sa voix ». Genèse 12, l'appel d'Abraham, « Quitte ta famille et ta parenté ». Et Genèse 12, chapitre 3, « Toutes les nations seront bénies à cause de toi et de ta descendance ». Alors la première étape, c'est avoir conscience de la chute et avoir conscience de notre indigence. Voilà c'est la première étape de l'Ancien Testament, jusqu'à Moïse. Et c'est ce que fait saint Ignace. D'abord, ramener le retraitant, si vous voulez reconstituer, remettre en ordre dans le retraitant des choses qui sont déjà connues, mais qui ne sont pas nécessairement en ordre, qui ne sont pas nécessairement exactement à leur place, et qui par conséquent ne sont pas nécessairement fonctionnelles au point de vue de la vie de la grâce, parce qu'elles ne sont pas articulées, elles ne sont pas fécondées les unes par les autres. La première chose qu'il faut réveiller dans l'être humain, c'est l'évidence que nous ne sommes pas dans notre état normal. Nous sommes en état de péché, en état de déchéance. Alors c'est le principe et fondement 1 dans les exercices. Comme nous n'avons plus l'expérience de l'état de déchéance, de l'état de justice originelle, et que donc nous ne sentons pas cet état d'échéance. On trouve ça très bien d'être un être humain, avec notre dignité humaine dressée sur nos pattes de derrière. Saint Ignace rappelle cet état d'échéance avec des choses qui sont accessibles à tous. Le principe des fondements vous rappelle, qu'est-ce que vous faites sur la terre? Premièrement, il y a un Dieu, il nous a créés. Deuxièmement, il attend de nous que soyons des gens bien. Qu'est-ce que vous voulez? Même quelqu'un qui n'est pas catholique peut arriver à saisir ça. C'est vrai, c'est normal d'être quelqu'un de bien. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on y fait? Tout le monde sent que ça passe, que le temps passe, qu'on vieillit. Et au fond, même quelqu'un qui n'a pas la foi peut sentir qu'on ne fait que passer. La terre est une espèce de gestation, de moyen d'achever notre personnalité. Et c'est vrai, vous voyez, même quelqu'un qui n'aurait pas la foi, cela, il peut arriver à le comprendre. Préparant un état définitif, parce que même quelqu'un qui n'a pas la foi, quand elle a vu un proche, une épouse, ou des parents, ou des enfants, des proches décédés, il dit « c'est pas possible qu'il n'y ait plus rien ». C'est pas simplement un conglomérat de matière qui n'est plus que le néant. Il y a quelque chose qui crie en nous, puis c'est vrai. Comme le fait qu'on est fait pour être un type bien. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être un type bien qu'une crapule? Vous voyez, même quelqu'un qui n'a pas la foi, mais il sent que c'est vrai. Et le début du principe de fondement, il est accessible même à quelqu'un qui n'aurait pas la foi. Ce serait normal d'être un type bien. Ce serait normal de ne pas gaspiller sa vie. Mais est-ce que nous sommes comme ça? Non, si on est honnête. Que de gaspillage dans notre existence. Vous voyez, même quelqu'un qui n'a pas la foi, il va se rendre compte qu'il y a une espèce de déchéance. Et pourtant, c'est grave. Parce que dans votre vie, c'est pas votre voiture qui est important, c'est votre compte en banque qui est important. Dans votre vie, c'est vous qui êtes important. Le bien que vous pourrez faire autour de vous va dépendre de ce que vous valez, vous. Comment donner à autrui ce qu'on n'a pas soi-même? Et finalement, nous aurions besoin d'aide. Parce que notre vie, la vie est souvent un grand gaspillage. Et vous voyez le premier germe du désir du Sauveur, quand Dieu promet à Adam quelque chose de très indéterminé, qui manque de clarté, « Je vous promets un Sauveur. » Est-ce que ce sera un ange? Est-ce que ce sera un homme? Comment sera-t-il? À quelle époque? Il n'y a aucune détermination. C'est une promesse, mais qui se greffe sur le point où l'être humain arrive à désirer le Sauveur. la conscience d'une perte de quelque chose et la conscience que c'est grave et qu'il faudrait, vous voyez, il y a quelque chose dont nous avons besoin. L'être humain qui prend conscience qu'il est indigent, qu'il doit tendre la main. Voilà, le principe et fondement 1, eh bien c'est le début du livre de la Genèse, le récit de la chute. Sous une forme qui est très bien, qui est très pédagogique, parce qu'elle est accessible même à quelqu'un qui n'aurait pas la foi. Je vous parle par expérience, j'ai constaté par expérience que nous avons des non-baptisés qui viennent de temps en temps en retraite, 2-3 par an, eh bien des non-baptisés. Et quelquefois qui viennent de zéro. Il nous est arrivé une fois un retraitant qui venait d'un groupe charismatique, qui cherchait, qui n'avait pas la foi, qui n'était pas baptisé, et qui ayant trouvé par hasard, ayant fait 2-3 retraites chez des charismatiques, qui ont trouvé par hasard un tract jaune, a débarqué en retraite. Eh bien, c'est là qu'on voit qu'avec une connaissance nulle, jamais ouvert la Bible, des idées vaguement sentimentales et souvent fausses sur la religion, ils accrochent sur le point de départ. Vous voyez, même quelqu'un qui n'a pas la foi peut accrocher sur le point de départ. On a une fois un bouddhiste, discute pas sur les questions auxquelles il est très attaché pour pas blesser l'affectivité. Il devait le point de départ. Il peut, ben oui, c'est vrai. J'ai besoin de quelqu'un. Si vous voulez, la conscience de l'indigence, le premier mouvement de tendre la main, et c'est vrai qu'il y a un créateur. Et c'est vrai, ça c'est au niveau de la raison. On n'a pas fait le soleil qui nous éclaire. Bon, je vais pas vous prêcher une retraite, mais je voulais vous faire sentir que la première étape des exercices, c'est le premier germe que vous trouvez dans la Bible. Les premiers hommes, avec ce souvenir de la perte de l'innocence initiale et la promesse d'un sauveur. Même si cette promesse est absolument indéterminée, si Dieu, pour le moment, ne précise pas plus. Principe et fondement 2, c'est, en gros, c'est préciser qu'est-ce que ça voudrait dire être un type bien. Ben, simplement être raisonnable, ne pas être une girouette. Ce serait normal d'être comme ça. Ce serait normal d'être raisonnable, ce serait normal d'être digne de confiance, ce serait normal d'avoir qu'une parole, ce serait normal d'être pas une girouette au premier caprice. Mais nous avons cette évidence que nous ne sommes pas comme ça. Vous voyez, c'est une confirmation de cette conscience de notre indigence. Et puis en même temps, il y a une question d'honnêteté. On commence les exercices en montrant aux retraitants où est-ce qu'on va le mener. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. On ne leur dit pas, ça va être formidable, mais promettez de rien dire, puis on verra après. On leur dit, qu'est-ce que vous êtes venu fiche ici et où est-ce qu'on va vous mener? Eh bien attention, vous ne savez pas encore ce qu'on va vous donner. Mais on vous dit où on va vous mener. On va vous donner le moyen d'obtenir de Dieu, devenir ce que vous désirez, être le type bien que vous voudriez être. Ce serait normal que vous soyez, ben c'est possible. Bon, c'est là, c'est pour ça que vous êtes venu ici, et c'est ça que vous allez recevoir dans les exercices. Donc, voyez, donner envie, donner le désir au départ, bon, sans anticiper de façon exagérée, en donnant ce qu'on est capable de recevoir, donner le désir au départ de la suite. C'est le premier germe de la foi, ce premier lien avec un sauveur, même si ce n'est pas encore clair de ce qu'il est encore, mais ce lien avec un sauveur implique une certaine, pratiquement cette idée d'échéance, l'idée de rédemption, attendre de Dieu qui nous sauve, et puis attendre cette idée que c'est la vie sur la terre, elle aboutit à quelque chose dans notre éternité, et qu'elle contient une réalité. Vous avez de façon virtuelle, implicite, même pour quelqu'un qui n'aurait pas encore la foi, les quelques miettes des trois mystères de la foi, la rédemption, l'incarnation, la Sainte Trinité. À partir des méditations suivantes, on commence à coller de façon beaucoup plus près au développement de la révélation, c'est-à-dire Abraham, Moïse. La première méditation, c'est celle sur la gravité du péché. Le premier exercice, pas le principe fondement, celui sur la gravité du péché. Chaque péché réactue le péché originel, la catastrophe originelle. Et alors on peut dire que c'est le récit de l'arche de Noé. Si vous voulez, nous sommes perdus si Dieu ne fait pas quelque chose pour nous. Pratiquement, on pourrait dire que le premier exercice, il rappelle toute cette histoire. Vous voyez, quelqu'un qui est disposé, comment ça se fait que nous faisons des choses que nous désapprouvons, qu'on a déjà vu au principe et fondement. Même, voyez, même quelqu'un qui n'a pas la foi, on lui dit, mais dans la Bible, on vous donne l'explication. Vous pouvez très bien ne pas encore avoir la foi, mais en fait, la réalité, c'est ça. L'être humain, au départ, il y a eu une catastrophe, le péché originel. Et le péché dans une âme humaine, c'est une catastrophe, parce que ce n'est pas simplement des choses extérieures, comme une catastrophe ferroviaire, c'est intérieurement. Notre âme qui se coupe de Dieu et qui se crée orphelin. Pour un enfant, pour un petit bébé, orphelin, ses parents meurent, et s'il n'y a pas d'orphelinat, il est perdu. Eh bien, dans l'âme humaine, le péché fait ça. C'est la seule véritable catastrophe. Les autres maux ne sont que des conséquences secondaires. Vous voyez, arriver à voir où est l'essentiel, et ça débouche toujours sur la même promesse. Le colloque à la fin d'une méditation, pour ceux qui ont déjà fait les exercices, toute méditation, il y a une part de raisonnement, et ensuite une part, l'enfant qui crie maman, si vous voulez, à la fin, on tend la main vers Dieu. Et le colloque, c'est l'appel au Sauveur. Le colloque se termine toujours par, il y a un Sauveur, vous n'êtes pas perdu, tendez la main, il ne vous abandonnera pas. Il vous a créé, il ne vous abandonnera pas. Donc, première méditation, la gravité du péché. C'est pratiquement ce que Moïse a écrit quand il a écrit le livre de la Genèse. Le capital de souvenir des origines de l'humanité que devait avoir le peuple élu, c'est le souvenir de la déchéance originelle, de la catastrophe originelle. Alors le premier exercice, c'est ça, de façon plus précise, si vous voulez. Deuxième exercice, souvenir des origines de l'humanité. Deuxième exercice, c'est le témoignage de notre vulnérabilité face au péché. On est capable de voir ce qui est bien et on est terriblement faible, vous savez tous par expérience. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas la foi, il est capable de comprendre ça parce qu'il sait bien par expérience qu'on est terriblement faible dans certaines circonstances. Quand on voit notre passé, on a un témoignage irréfutable. Et alors cette partie des exercices, ce deuxième exercice, mais c'est ce que vous regardez dans l'Ancien Testament. On ne conseille pas la lecture de l'Ancien Testament sans guide, parce qu'il y a de quoi être scandalisé. C'est terriblement cru, si vous avez un peu ouvert l'Ancien Testament, si vous avez lu un peu le livre de la Genèse, souvent des gens arrêtent, parce que vous n'avez pas d'histoire édifiante là-dedans. Vous avez l'état réel de l'être humain avant le Sauveur, avant la rédemption, avant la loi de Moïse. Vous savez l'histoire d'Agar, Abraham, il avait toute la sainteté qu'on pouvait, mais il y a cette dureté des mœurs tribales à l'époque. La femme de second rang déplaît à la femme de premier rang, on la chasse avec un bout de pain et meurt dans le désert, c'était la règle. Actuellement, il y a 50 ans, les missionnaires qui instruisaient les lapons dans le Grand Nord, eh bien, ils racontent exactement les mêmes pratiques. Quand quelqu'un était ou blessé ou malade ou n'était plus accepté par la tribu, eh bien, on le rejetait, il attendait, il s'asseyait, il cessait mourir. Et la tribu s'éloignait en le laissant dans le grand désert blanc, il cessait mourir. Et même, vous voyez, la Bible vous décrit cette dureté de l'être humain, dureté, et puis cette corruption profonde. Vous avez l'histoire de Dinah, je ne vous la redécrirai pas pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament. Quand même un peu scandalisé, comment ça se fait que ces choses-là sont racontées dans la Bible? Et c'est vrai que c'est pas un livre contenant des histoires édifiantes et roses, c'est la description crue de la faiblesse de l'être humain, sans le Sauveur, et pratiquement la seule lumière qui fait que petit à petit, ça devient plus humain, mais ce n'est pas tout de suite, mais il y a au départ l'espérance du Sauveur qui est comme la lumière ou comme la colonne vertébrale autour de laquelle se reconstitue ce qui est possible de reconstituer dans l'état de chute originelle. Alors vous voyez, le deuxième exercice, c'est ce témoignage dont la Bible est qui est vraiment décrit dans la Bible et que nous avons le suffit de chercher, pas besoin de chercher ailleurs qu'en nous. Nous avons ce témoignage irréfutable de notre propre faiblesse. Évidemment, ça débouche chaque fois sur la même chose. Il y a un Sauveur, et c'est notre raison d'espérer, c'est notre raison de vivre, c'est ce qui fait que notre vie vaut quelque chose, et nous pouvons espérer faire mieux, ou espérer être mieux demain. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas de Sauveur, humainement, on dirait, j'ai été crasseux hier, qu'est-ce qui me fait croire que ce ne serait pas demain? C'est le proverbe qui a bu boira, en gros. Bon, voilà la deuxième méditation des exercices. Je vais m'attarder sur la première semaine des exercices, parce que, comme dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est énorme par rapport au Nouveau Testament, et pourtant, l'essentiel, c'est le Nouveau Testament. Mais la gestation des conditions pour comprendre et recevoir le Sauveur, c'est une préparation qui est très longue et dans laquelle les étapes ne pouvaient pas être, dont on ne pouvait pas faire l'économie. Et dans les exercices, ces premières dispositions de l'âme par rapport à Dieu, et on ne doit pas en faire les exercices, même l'économie. Même quand elles sont déjà acquises, qu'on est déjà catholique, baptisé, qu'on a eu son catéchisme, la remise en ordre, dans l'ordre de priorité, de ces choses déjà connues, mais de telle manière que chacune féconde la suivante, eh bien, c'est ça qui redonne, qui permet de faire de notre raison de vivre de connaissances qui sont peut-être assez spéculatives, connaissances du catéchisme. Alors, troisième, dans la deuxième méditation, il y a plusieurs points. Il y en a un qu'on retrouve tout à fait dans l'Ancien Testament. Il y a un paragraphe dans l'orgueil, d'un graphe pour aider, quand on a du mal, un paragraphe pour aider. Quand on a du mal à se rendre compte que notre vie passée est vraiment témoignage de notre faiblesse parce qu'on est trop content de soi, eh bien, il y a ce souvenir que l'être humain est peu de choses, il reçoit tout de Dieu. Et alors ce souvenir, vous avez une leçon que Dieu a voulu imposer au peuple juif, au peuple hébreu, à la sortie d'Égypte, le fait que, laissés à eux-mêmes, ils n'ont qu'à mourir dans le désert. Ils tiennent de Dieu la manne, la nourriture quotidienne, et ils tiennent de Dieu même l'itinéraire pour marcher. Eh bien, vous voyez, dans le deuxième exercice, vous avez cette disposition, quelquefois nécessaire, quand on croit qu'on suffira soi-même. Vous vous rendez compte que nous avons besoin de Dieu, rien que l'air à respirer, ce n'est pas nous qui le fabriquons. Et puis, vous avez une autre méditation. Reconnaître la grandeur de Dieu à partir des choses créées. Qu'est-ce qui empêche les hommes de se tourner vers Dieu, surtout à l'heure actuelle? C'est l'orgueil technique, l'orgueil du pouvoir sur les choses créées. La science, qui au lieu de nous faire connaître Dieu, c'est un moyen d'arracher à la nature ses secrets, et puis quand on possède les secrets, eh bien, on va avoir pouvoir sur les choses, et elles vont nous servir, et on va se les recréer à notre profit. Vous voyez, cette espèce d'ivresse du pouvoir technique sur la nature, qui fait que l'homme oublie son Dieu. Eh bien, la nature humaine est toujours la même. Et dans l'Ancien Testament, comment se manifestait-elle? Par l'adoration des idoles. Dans l'Ancien Testament, on dit que les hommes se fabriquent des idoles et ils les adorent parce qu'ils en ont fabriqué, ils sont contents parce que c'est leur, on peut dire que c'est ces divinités qui se sont fabriquées, eux. Et dans l'Ancien Testament, vous avez sans cesse ce cri, mais ils adorent des choses modelées qui sont rien du tout, qui sont rien du tout, qui sont que de la matière au lieu d'adorer le Créateur du ciel et de la terre. Et dans ce deuxième exercice, vous avez ce point de l'Ancien Testament qui, pour certaines intelligences, en particulier pour des universitaires, c'est souvent ce point-là sur lequel il faut insister plus. Mais vous voyez que Satigas ne l'a pas inventé. En fait, c'est une des choses qu'on trouve bien dans l'Ancien Testament. Il faut insister plus parce que sur le fait que la science va nous permettre de connaître le Créateur, au lieu de l'oublier et puis de nous enivrer du bricolage que nous sommes capables de faire avec les moyens que nous avons. Troisième méditation, vous avez les mêmes choses que dans les deux méditations précédentes, mais avec une insistance sur la passion. Dans l'Ancien Testament, ce qui est révélé progressivement, enfin, ce n'est pas été immédiat, mais ce qui se révèle progressivement du Sauveur à venir, c'est principalement qu'il souffrira pour les péchés. Vous connaissez tous, je suppose, le passage d'Isaïe, où il est dit qu'il portait nos péchés, c'est nos péchés qui étaient ses blessures, il portait la malédiction que nous avions méritée, nous avons été sauvés par ses plaies, son sang et sa mort. Bref, dans les psaumes, vous avez la même chose. Quand les psaumes décrivent le Sauveur, ceux qui décrivent de façon la plus claire le Sauveur, les psaumes de David, ils décrivent surtout la passion. Autrement dit, dans ce début où les hommes commencent tout doucement à avancer dans la bonne direction avec ce qu'ils peuvent grappiller du Sauveur à venir. Eh bien, la connaissance possible quand on est encore pécheur, c'est le Sauveur en tant qu'il souffre pour nos péchés. Alors, dans le troisième exercice, il y a une insistance très forte. Le principal de la méditation, c'est le calvaire. Mais ça n'est pas une méditation sur la passion telle qu'on peut la faire en fin de retraite, quand on arrive à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on arrive vraiment à percer les secrets de la rédemption. Enfin, disons plus profondément, Dieu seul connaît vraiment le mystère, mais quand, au départ, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, c'est nous qui sommes pécheurs et nous sommes sauvés par son sang. Même quand on ne comprend pas totalement le lien logique entre les deux, l'expérience montre, et je vous assure que je l'ai vu par expérience, à cette méditation, des gens qui ignoraient pratiquement notre Seigneur ou qui n'en avaient qu'une connaissance très vague, très approximative, arrivent à fondre en larmes en pensant aux souffrances du Sauveur. Alors que l'Évangile n'est pas connu pratiquement, alors il semble... Alors, si vous voulez, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je constate que dans les exercices, cet ordre de succession est présenté comme ça. Donc, je constate que dans l'Ancien Testament, dans les connaissances du peuple hébreu, eh bien, la connaissance du Sauveur successive, ce qui est la première connaissance bien précise du Sauveur, personnelle du Sauveur, c'est surtout la passion. Et l'âme est capable d'être touchée par ça. C'est-à-dire que l'amour du Sauveur, qui est encore une silhouette bien indistincte dans l'avenir, elle devient possible. La première étape, c'est de connaître notre déchéance. nous rendrons qu'on a besoin d'un sauveur. Et le premier mouvement, qui n'est pas simplement un calcul, qui commence vraiment à être un mouvement d'amour pour le sauveur, eh bien, ça s'attache spontanément à cette perception quasi instinctive qu'il a souffert pour nos péchés. Il est probable que l'enfant, le petit bébé, qu'il ne connaît pas, qui ne peut pas intellectuellement savoir comment il est né, et qui ne peut pas connaître intellectuellement les souffrances de sa maman, sait confusément au fond de lui-même, quelque part, que sa maman a souffert pour lui donner la vie. De façon très confuse, mais il sait, les psychiatres, je me méfie des psychiatres, mais ils racontent que, ou les psychologues, ils racontent que on trouve des traces dans l'inconscient de souvenirs déjà perçus dans la gestation, dans le sein maternel. C'est probablement vrai, parce que l'expérience en retraite nous a montré, enfin des témoignages, pas notre expérience, des témoignages de mères, de familles, nous ont appris que les mères de famille, que les enfants qu'elles portaient en faisant une retraite, alors qu'ils ne sont pas encore baptisés, donc en principe la retraite de la maman ne doit pas avoir d'influence sur le petit bébé qu'elle porte. Ces enfants-là sont plus pieux que les autres. Et ce n'est pas un cas, par exemple, où ce pourrait être un enfant par hasard d'un heureux caractère et une simple coïncidence, parce qu'il y a vraiment une répétition, une certaine constance. Eh bien, vous voyez, il semble que probablement, sans en avoir une conscience explicite, sans être capable de l'expliquer ou de le formuler, le bébé, dans son amour envers cette confiance, sa sécurité envers sa maman, une certaine perception que pour avoir ce qu'il a, il a dû souffrir quelque chose. Et alors, il semble que dans l'ordre surnaturel, il y a une perception semblable quand on se sait pécheur et qu'on voudrait, dans les brumes, deviner ce qu'on peut deviner du Sauveur, mais deviner pas simplement comme une connaissance intellectuelle ou académique, comme quelque chose qui serait notre vie. Eh bien, ce qu'on arrive à deviner, c'est qu'il a souffert pour nos péchés. Alors, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce qu'ils arrivaient à deviner, c'était cela. Dans le troisième exercice, il y a une nuance de plus, non seulement le péché, des nuances qui ont une grosse importance et qui souvent échappent. Alors évidemment, on ne peut pas demander aux traitants de s'apercevoir de toutes ces choses-là. C'est à force de... Ça fait 10 ans que je prêche les exercices. C'est à force de voir l'effet dans les âmes que je me suis aperçu que certains déclics se mettent en route les uns derrière les autres. Et un des déclics qui se met en route dans le troisième exercice, c'est la conscience que non seulement il faudrait sortir du péché, mais il faudrait que consolider le terrain. Parce que le péché pousse sur le terrain mouvant. Alors vous avez dans le troisième exercice quelque chose qui apparaît dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse et un peu dans l'Exode, beaucoup dans les Nombres et beaucoup dans le Lévitique. Eh bien la loi de Moïse, c'est non seulement les 10 commandements de Dieu, mais l'ensemble du contexte social favorable pour la pratique des commandements de Dieu. Parce qu'il y a un contexte favorable sans lequel la pratique des commandements de Dieu sera... J'espère qu'il n'est pas trop tard, si, déjà un peu tard. Il y a un contexte sans lequel la pratique sera rendue extrêmement difficile. Et alors, au sable du troisième exercice, enfin, notez quand même, Moïse, c'est tardif. Hein, de Abraham, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, et Moïse, c'est autour de 1400 avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même pas mal, 430 ans, quoi, d'Abraham à Moïse. À peu près, c'est le moyen mnémotechnique que donne saint Paul, d'Abraham à Moïse 430 ans, de Moïse au temple à Salomon 430 ans. Ce n'est pas strictement exact, mais ça donne, il y a un ordre de grandeur qui permet de ce moyen mnémotechnique. Eh bien, dans la loi de Moïse, non seulement les 10 commandements, mais l'ensemble du contexte qui permettra aux 10 commandements d'être réalisables. Et vous avez, vous voyez, à ce moment-là, dans les exercices, une porte ou une autre fenêtre qui s'ouvre, non seulement les 10 commandements, mais en plus, l'ensemble du contexte dans lequel ça deviendra réalisable pratiquement dans notre vie. Alors ensuite, les autres méditations, c'est une insistance sur le principal que je viens de vous décrire. La reprise, quatrième exercice, cinquième exercice, la méditation sur l'enfer. Saint Ignace faisait reprendre ses méditations les unes derrière les autres, quand il les donnait individuellement, en faisant vraiment du prêt-à-porter, c'est-à-dire en adaptant sur chaque âme, il faisait recommencer chaque méditation tant que le mouvement dans l'âme qui doit être produit par la méditation n'était pas obtenu. C'est-à-dire qu'il y a des indices de l'action de la grâce qui en général se sent, c'est-à-dire que l'âme qui tend vers Dieu, quand la grâce l'envahit, c'est sensible. Et Saint Ignace donne il y a quand même l'expérience des prédicateurs qui permet de reconnaître. Et alors il faisait recommencer chaque méditation, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à temps que le mouvement intérieur soit obtenu. Et il ne passe à l'étape suivante que quand l'étape précédente, le mouvement est obtenu, les dispositions sont obtenues dans l'étape précédente. Il y a un exemple célèbre, le père Villanueva, un des premiers disciples de Saint Ignace, contemporain, qui était, d'après au dire de Saint Ignace, je crois, le troisième à donner le mieux les exercices dans la compagnie de Jésus. Et Villanueva, qui était à Alcala, en Espagne, avait reçu un jour un bénédictin qui donnait du scandale, qui n'était pas un mauvais homme, mais très faible, et qui vivait mal, je crois qu'il était ivrogne. Très faible, pas mauvais en soi, mais enfin c'était quand même un peu scandaleux de le voir prendre des cuites régulièrement. Alors on l'a envoyé sous un prétexte, et puis le père Villanueva réussit à le convaincre, il avait reçu une lettre, le convaincre à rester et puis faire les exercices. L'autre se dit, bon, tant qu'à faire, pourquoi pas. Et il lui a prêché les exercices jour après jour. Et bien alors l'autre écoutait bien, connaissait son catéchisme, ça lui faisait rien, il restait absolument froid. Il l'a gardé sur la première semaine des exercices 21 jours complets. Sur les 30 jours. Le 21e jour, l'autre s'est mis à fondre en larmes, en poussant de rêverie réellement des cris de douleur, en ressentant ce qu'est le péché. D'un seul coup, cette connaissance qui n'était jusque-là qu'une connaissance morte et spéculative est devenue quelque chose qui faisait partie de sa vie. Ensuite, en quelques jours, tout le reste s'est passé tout seul. Parce que, vous voyez, une fois que les fondations sont établies, le reste se construit très rapidement. Mais l'exemple est célèbre. Alors cette attente, ce début des exercices, qui même dans les 30 jours est assez long, il correspond à cette préparation indispensable de l'Ancien Testament. Alors je vous rappelle quand même les dates, Abraham 2100 avant Jésus-Christ, Moïse 1400, David 850, c'est un peu faux mes dates, mais c'est un ordre de grandeur, à 50 ans près. Et puis Daniel 500 avant Jésus-Christ. Et vous voyez, on voit que Dieu ne fait pas d'économie sur les fondations de l'édifice. Dans les exercices, la méditation sur l'enfer a aussi une caractéristique curieuse. C'est encore avec l'expérience que je me suis aperçu qu'il fallait la prêcher d'une certaine manière et pas d'une autre. Dans les exercices, cette méditation porte sur les peines physiques de l'enfer, en particulier sur le feu de l'enfer. On serait tenté de se dire, le plus pénible de l'enfer, c'est la séparation de Dieu, ce qui est absolument vrai. Mais quand on regarde l'Ancien Testament et qu'on se demande comment Dieu a-t-il révélé l'état des pécheurs dans l'éternité, eh bien, ce que Dieu révèle d'abord dans l'Ancien Testament, c'est la peine du feu et la souffrance physique. C'est-à-dire que chez un être humain qui est en voie de conversion, et leurs partisans qui sont engloutis dans la terre s'ouvre, il y a un océan de feu dans la terre, ils sont engloutis là-dedans et hop, ça se referme derrière. Et ensuite, dans tout l'Ancien Testament, on appelait l'enfer le gouffre de feu ou l'abîme de feu en souvenir de cette première manifestation. Vous voyez, ce premier enseignement divin, il se manifeste de façon visible et il se manifeste sous quelle forme? Sous forme d'une souffrance physique qu'il faut craindre. L'enfer, c'est d'abord l'océan de feu. Et cette manière de présenter l'enfer existera dans tout l'Ancien Testament. Il n'y a pas uniquement ça. Tardivement dans le prophète Zacharie, il est parlé de cet état de séparation de Dieu. Mais enfin, dans tout l'Ancien Testament, l'enfer, la connaissance de l'enfer qui est adaptée à cet état de préparation au Sauveur, c'est d'abord la crainte des peines physiques. Et alors c'est pour ça que par la suite, d'ailleurs au contact des âmes, je me suis rendu compte qu'il fallait prêcher l'enfer à la manière dont il est présenté dans l'Ancien Testament. Donc d'abord, cet état de souffrance physique. Parce que quelqu'un qui n'est pas... disons, qui n'a pas encore vraiment abordé le Sauveur, qui a la conscience du péché, en fait, n'arrivera vraiment à redouter qu'une peine physique, c'est-à-dire quelque chose qui est de même nature que la délectation que produit le péché. Le péché nous attire parce qu'il y a une délectation. Et le contrepoison qui est adapté à cette étape-là, c'est peut-être pas le plus parfait, c'est peut-être pas le plus saint, c'est peut-être pas l'aspect complet et le plus grave de l'enfer, mais... la petite facette qui est la nourriture adaptée à ce moment-là, c'est la crainte des peines physiques. C'est l'essentiel. Dans la méditation donnée par Saint Ignace, la division en tranches de saucisson par sensations bien distinctes, c'est quelque chose que je trouve secondaire et qui n'est pas indispensable. Mais ce qui est important, ça fait partie des pièces du puzzle. Ce qui est important, c'est cette crainte des peines de l'enfer. Alors il y a une part pour la miséricorde dans la première semaine des exercices, mais comme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire chaque fois de façon récurrente dans le colloque à la fin de la méditation. Toute méditation est un constat d'indigence, et à la fin de ce constat d'indigence, il y a la promesse d'un sauveur et la promesse de la bonté de Dieu qui aura pitié de son enfant malade. Et dans l'Ancien Testament, la miséricorde se révèle et est révélée elle aussi de la même manière, mais de façon voilée. Et souvent d'une façon, avec la comparaison de l'aspect maternel. En hébreu, le mot miséricorde, vous savez qu'il n'existait pas en latin, il était inventé par les chrétiens, il a été calqué sur le mot hébreu, mais on perd l'étymologie. L'étymologie en hébreu est la même étymologie que maternelle. Le mot miséricorde en hébreu, enfin, quand on dit Dieu est miséricordieux dans la Bible, en fait, quoi que ce soit faux, ce n'est pas le même mot. Non. Ça résonne à l'oreille comme maternel, on pourrait dire Dieu est maternel. Et alors ça apparaît dans Isaïe, vous connaissez tous le passage du prophète Isaïe qui dit « Est-ce qu'une mère peut oublier son enfant et celui qu'elle a allaité de son propre lait ?» Eh bien même si une mère humaine était capable d'oublier son enfant ou de le laisser sans secours, eh bien moi je ne vous oublierai pas. Mais quand on voit pied, quand on prend vraiment du recul, on voit que c'est chaque fois après le rappel du péché et dans un esprit de supplication. Mais la miséricorde est connue de façon très imparfaite parce que tant que les hommes n'ont pas vu notre Seigneur Jésus-Christ en chair et en os, au fond ils ne connaissent pas la miséricorde en chair et en os et ils ne disposent que d'une comparaison un peu lointaine qui est l'amour maternel. C'est ce qui ressemble parmi les hommes à la disposition de Dieu envers ses créatures, à la miséricorde. Une autre chose en première semaine, la part de la bonne volonté qui a la prééminence par rapport à la grâce de Dieu. C'est la même chose dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ce qui est demandé aux hommes d'abord, c'est de faire, de lutter pour afin d'avoir de la bonne volonté pour sortir du péché. Dans l'Ancien Testament, il y a d'abord la bonne volonté, l'importance de la loi, l'importance du culte, puis le choix de Dieu. Et ça se sent très bien au niveau des pharisiens. Aux yeux des pharisiens, ce qui est important, c'est notre règle avec la loi. Alors, il y a bien sûr une certaine connaissance de la miséricorde, mais voyez, la prééminence est d'abord donnée à la bonne volonté humaine. La prééminence de la grâce n'apparaîtra qu'avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, quand la vie surnaturelle commence à s'incruster dans une âme, elle reste quand même essentiellement charnelle par toutes ses habitudes, toute sa manière de voir. Petit à petit, on se transforme, mais pas de façon brutale. En sorte qu'au départ, le principal dans le service de Dieu, ça va être surtout notre bonne volonté. À un moment donné, quand la vie surnaturelle s'est développée en nous, le principal sera d'abord de reconnaître la volonté de Dieu et de nous laisser porter par lui. Mais ça suppose que la vie surnaturelle nous ait envahi et ait gagné suffisamment notre volonté. Ce qui fait que l'Ancien Testament correspond au premier pas de la conversion. Dans la première étape des exercices, quoi qu'il y ait Dieu et l'initiative, l'insistance la plus grande est sur la ferme résolution de ne plus pécher. Et ça correspond à l'Ancien Testament. Voilà, alors j'ai terminé avec la première semaine. La première semaine, on peut dire, s'achève avec Saint Jean-Baptiste. Voilà, les dispositions en fin de première semaine, c'est l'ultime préparation de l'âme à recevoir le Sauveur. Et Saint Jean-Baptiste résume le sacrement de pénitence qui vient marquer le sceau à la première semaine. Sacrement de pénitence correspondant au baptême de Saint Jean-Baptiste au Jourdain, où on accusait ses péchés, on lui demandait qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être meilleur. Pour ça, vous rappelez, l'évangile commence par Saint Jean-Baptiste, et il est en quelque sorte l'interface entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Eh bien, fin de première semaine, Saint Jean-Baptiste, le sacrement de pénitence. Voilà. Alors, ça va être un peu plus rapide pour la suite, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Je vous en parle avec plaisir et j'espère vous donner le goût de l'Ancien Testament, parce que vraiment, pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le voir avec toute cette perspective d'attente, parce que c'est vraiment les étapes par lesquelles notre âme est passée depuis le baptême. Et plus nous correspondons volontairement à ces étapes, plus la grâce agit facilement en nous. Alors, deuxième grande étape, le Sauveur. Et pour cette deuxième grande étape, dans la deuxième semaine, on commence par une méditation qui est très curieuse. J'ai mis du temps à comprendre sa place, la méditation de l'appel du roi. Très souvent, on ne la comprend pas très bien. Quand on se convertit, qu'est-ce qu'on voit de la vie chrétienne? On voit de la vie chrétienne, en gros, qu'un bon chrétien, c'est quelqu'un qui évite de faire des péchés, qui en gros va à la messe, se confesse, est fidèle à sa femme, n'est pas un menteur et est honnête dans la vie. À peu près. Bon. Et voilà à peu près la conception qu'on va se faire de la vie chrétienne. Et alors, on se dit, si tout le monde était chrétien, eh bien on rétablirait le paradis sur la terre. Si tous les gens étaient honnêtes, s'il n'y avait plus de délinquants, s'il n'y avait plus de voleurs, si tout le monde était bon les uns avec les autres, le paradis, qu'est-ce qu'est venu apporter le Sauveur? Ben, le Sauveur apportera, voyez, on sent qu'il reste quelque chose de la beauté de Dieu, de la bonté de Dieu sur les choses créées dans le monde autour de nous. Et on a l'impression que finalement, peut-être, en arrangeant un peu les choses, ce paradis perdu, on pourrait le rétablir sur la terre. Alors, vous avez une transition qui est en Israël. Qu'est-ce qu'on attendait du Sauveur? Vivre en paix, chacun dans sa vigne et sous son figuier. Je reprends une expression de l'Ancien Testament, chacun sous sa vigne et sous son figuier. C'est-à-dire un minimum de sécurité, une certaine prospérité, le culte rendu à Dieu, et puis une certaine bonté mutuelle. Et alors, naturellement, nous serions un petit peu portés à nous dire ce qu'il faut, c'est rétablir sur la terre le paradis qui est perdu. Bon, je ne sais plus pour ce que je voulais vous dire, mais j'ai sauté un petit peu. L'Ancien Testament est d'abord la conservation de la promesse. Vous noterez que dans le peuple hébreu, il n'y avait pas d'apostolat à proprement parler, pas de prosélytisme à proprement parler. On acceptait les prosélytes, mais c'était du bout des lèvres. Parce que la raison d'être du peuple juif était de conserver l'espérance d'Israël, de la faire grandir pour être un jour le réceptacle du Sauveur, être capable de recevoir le Sauveur et de le comprendre. Donc il n'y a pas directement d'apostolat. Comme en première semaine, la priorité n'est pas directement à l'apostolat, la priorité est d'abord à éviter le péché, notre sanctification personnelle. À partir de la deuxième semaine, quand on aborde le Sauveur, l'optique change complètement. La priorité n'est plus à la sanctification personnelle, mais à l'apostolat. Alors ça va ensemble, c'est-à-dire qu'en deuxième semaine des exercices, on constate qu'il n'y a plus de différence entre sauver son âme et la gloire de Dieu. Parce que ce qui contribue à notre sanctification est en même temps ce qui contribue au salut du prochain, et ce qui contribue au salut du prochain est en même temps ce qui contribue à notre sanctification. Mais du fait de l'ouverture universelle qu'apporte notre Seigneur Jésus-Christ, la sanctification, la conquête du monde entier, vous avez une tentation qui sera la tentation de l'activisme. Tentation de conquérir au Christ le monde entier, mais comme une espèce de pouvoir politique vertueux, défendant les commandements de Dieu, et avec les moyens. Alors les Juifs, à l'époque, étaient séduits par ces Romains, qui détestaient, c'était des païens, mais en attendant, ils avaient réussi, ils avaient conquis le monde entier, et puis personne n'osait résister à l'horreur romaine, et rien n'avait résisté aux légions. Et alors, ils attendaient le Sauveur, enfin, pas tous, qui attendaient d'abord d'être devenir des saints, mais beaucoup attendaient du Sauveur. Il était promu une espèce d'autorité sur le monde entier, mais c'était l'Église. Et ils attendaient du Sauveur, finalement, une espèce de conquête comme les Romains, avec les moyens des Romains. Et alors, la méditation des deux étendards, c'est une autre facette de la prédication de Saint Jean-Baptiste, où Saint Jean-Baptiste leur rappelle la priorité. Le Sauveur viendra pour vous sortir du péché, et le Sauveur ne viendra pas pour vous assurer comme route de secours ou comme moteur auxiliaire de la domination politique d'Israël. Alors, l'appel du Christ roi, c'est sa fonction. Voilà la fonction de l'appel du Christ roi. Nous faire désirer le Sauveur, mais pour attendre la sainteté. Et attendre en gros la sainteté et non pas la réussite du Sauveur. Attendre le royaume dans le ciel et non pas sur la terre. Accepter de prendre les moyens du Christ et ne pas accepter de prendre les moyens de la révolution. Parce que c'est difficile. Nous voyons très bien les ennemis du Christ qui gagnent avec l'entrisme, le noyautage, la propagande, les masses médias, les affiches, les tracts, tous ces moyens, les puissances financières, la puissance militaire, la puissance politique, et tous ces moyens, on voit très bien que ça marche, c'est efficace. Or, notre Seigneur n'a utilisé aucun de ces moyens. Autrement dit, arriver à désirer ce qu'il est venu enseigner, ne pas redescendre vers la terre, c'est-à-dire vouloir la vertu pour que tout le monde soit honnête et que l'économie marche bien. Vous voyez, arriver à ce que les gens soient vertueux de telle manière que ce soit très, très favorable à la prospérité économique et que les affaires reprennent. Ce qui est un petit peu la mentalité protestante. Il faut arriver à attendre du Sauveur d'abord un royaume qui n'est pas de ce monde, parce que ce monde reste marqué par le péché. Alors, c'est le but de la méditation, de l'appel du roi. Le Sauveur nous appelle à une conquête, mais nous appelle à une conquête non pas à la réussite sur la terre, mais à la sainteté. Deuxièmement, il nous appelle à un royaume, mais qui n'est pas sur cette terre, même s'il commence dans les âmes. Et ça n'est pas un territoire, ça n'est pas une puissance financière, c'est d'abord une transformation des cœurs. C'est quelque chose qui existera dans l'éternité, mais qui ne s'incrustera pas sur la terre. Troisièmement, avec ses moyens à lui. C'est-à-dire en acceptant de porter notre croix et de souffrir en partie pour la rédemption des âmes. Parce que quand les hommes sortent du péché, eh bien, en même temps, le royaume des cieux se développe. Or, les âmes ne sortent du péché que dans la mesure où on continue la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'appel du roi est destiné à vous faire ouvrir l'évangile de telle manière que... ce que le retraitant ouvre l'évangile de telle manière qu'il ne fasse pas un énorme contresens et qu'il n'imagine pas en Jésus-Christ ou bien un pacifiste rêveur ou bien le promoteur de la prospérité et de la justice sociale ou bien le promoteur de la paix dans le monde. Vous voyez qu'il ne... Et je vous assure que ce n'est pas illusoire. On sent bien, même un petit peu dans nos milieux, vous savez, les catholiques qui ont viré leur cutie et qui ont fait leur mue et qui ont réellement le cœur est dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas si fréquent. Il suffit de voir avec quelle indignation on sent « ça ne va pas sur cette terre, ça ne tourne pas, etc. Il faut faire quelque chose, on ne va pas se laisser faire. » Et d'où ça vient? Ils n'ont pas fait leur mue. Le royaume n'est pas encore vraiment le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire tout le bien qu'on peut, on ne va pas essayer que les gens soient le moins malheureux possible, on ne va pas essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas le plus de justice possible. Mais il faut déjà bien réaliser ce qu'est venu enseigner notre Seigneur, ce qui est le message qui est transmis sans cesse dans la Bible. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde, et même dans ce monde, il n'y aura jamais de justice. Si Dieu a permis que son Fils soit crucifié, le juste par excellence, eh bien, il ne faut pas attendre que réellement la vertu soit récompensée sur cette terre. Même la justice humaine qui est imparfaite ne sera jamais parfaite sur cette terre. Alors, il est quand même vrai qu'au fur et à mesure que les âmes se convertissent au Christ, ce monde devient moins inhumain, devient moins dur pour les faibles. Il faut quand même se rappeler que notre patrie, c'est le ciel. Alors, bon, j'étais un petit peu long, mais je voudrais vous faire saisir la place très, vraiment névralgique de l'appel du roi. C'est la même fonction de Saint Jean-Baptiste, qui devait préparer les meilleurs en Israël à attirer leur attention, donner du relief à ce qui était le plus important. Qu'est-ce qu'ils devaient attendre d'abord du Sauveur, devenir des saints. Si vous lisez le Benedictus, vous verrez que ça apportait des fruits. Dans le Benedictus, ce que Saint Zacharie attendait, c'est de devenir un saint. C'est là qu'il attendait du Sauveur. À partir de ce moment-là, on peut aborder l'Évangile. Or, la deuxième semaine commence par une chose intéressante. On reprend à zéro, c'est-à-dire que la deuxième semaine des exercices recommence comme si on resurvolait tout ce qu'on vient de voir. La première contemplation de l'incarnation pousse à relire avec un regard nouveau, le regard de la très sainte Vierge Marie, tout l'Ancien Testament. Dans cette première contemplation, on recommence la chute, Adam, Abraham, l'espérance d'Israël, et l'espérance d'Israël qui prend vie en la très sainte Vierge Marie et qui devient vraiment le réceptacle, l'écrin du Sauveur. L'attente d'Israël qui devient parfaite dans l'âme de la très sainte Vierge Marie. Mais on reprend, alors c'est une constante, c'est-à-dire ce retour cyclique dans lequel chaque fois on comprend les mêmes choses, mais d'une façon un peu différente, un peu parfaite. Dans les quatre étapes des exercices, ça se retrouve, mais ça se retrouve dans la messe, ça se retrouve dans toute la vie, dans toute une vie chrétienne. C'est toujours les mêmes choses qu'on se répète. Comme en Israël, on répétait tous les ans l'histoire de l'agneau pascal, j'y reviendrai, eh bien, notre sanctification consiste à revoir sans cesse les miséricordes de Dieu, mais au fur et à mesure qu'on se sanctifie, on les comprend autrement. Donc au départ de la deuxième semaine, on reprend ce qu'on a vu en première semaine, d'une façon en perspective, si vous voulez, avec un recul, vu du point de vue de la Très Sainte Vierge Marie. Adam, la chute, le péché, la promesse, Abraham, l'espérance d'Israël, la très sainte Vierge Marie. Et c'est dans cette perspective qu'on comprend notre Seigneur Jésus-Christ comme l'héritier, l'achèvement de toute l'espérance d'Israël, l'espérance qui prend vie. Alors attention, ce n'est pas simplement l'espérance d'Israël, c'est tout ce qu'on désirait en première semaine, quand on pleurait sur ses péchés en première semaine, c'est qu'on aimait d'avance celui qu'on ne connaissait pas encore. Et vous voyez, quand on aborde la deuxième semaine, si une retraite est bien faite, je vous assure que une retraite bien faite, c'est vraiment un bouleversement. Et on comprend pourquoi il y a de pareils fruits. C'est que réellement, à ce moment-là, on a l'impression de découvrir celui qu'on aimait en distinguant qu'une silhouette très indéterminée dans les premiers jours, dans les premières méditations au début de la retraite. Alors après l'incarnation, eh bien, ce sont les méditations sur l'évangile suivant la durée de la retraite, 5 jours, 8 jours ou un mois, il y en a plus ou moins. Mais en fait, la silhouette de notre Seigneur, le raccourci pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la très sainte Vierge Marie. Et pour bien comprendre la très sainte Vierge Marie, il faut la voir comme l'achèvement de l'espérance d'Israël, l'espérance d'Israël devenue parfaite en elle. Dans cette deuxième semaine, il y a deux méditations. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait les exercices les connaissent. Deux paraboles bizarres, les deux étendards et les trois classes. Les deux étendards sont destinés à éviter de tomber dans l'activisme et ne pas laisser engager sa générosité sur des voies de garage, ce qui est extrêmement facile. Et puis les trois classes, destinées à orienter notre amour, que notre amour du Christ ne se transforme pas en pitié stupide pour les canards boiteux en pitié stérile, parce que notre bonté doit être d'abord pour le bien des âmes et pas d'abord pour le bien des corps. Alors la spécialité du démon, c'est quand il a des gens qui sont en état de grâce, que malheureusement il ne veut plus leur faire faire de péché, enfin malheureusement pour lui, eh bien il tâche de leur faire faire des bêtises, parce qu'à force de bêtises, petit à petit la vie de la grâce se dessèche en eux. Donc vous avez deux méditations qui pratiquement servent de grille de décryptage et qui permettent de mieux comprendre les béatitudes. Quand on a fini les méditations, ces deux méditations, les deux étendards et les trois classes, on comprend les béatitudes, on comprend pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a voulu de préférence, la pauvreté, la pauvreté, l'absence de succès, l'absence de réussite, des petits moyens, alors qu'en apparence, il y aurait eu beaucoup plus d'efficacité à court terme en utilisant les moyens humains, en utilisant le prestige, la splendeur, le pouvoir, l'argent, et il avait ça à sa disposition. Et bien, quand on a fini ces méditations, on comprend beaucoup mieux que réellement, c'est au lieu d'être un soutien, c'est une charge supplémentaire. On a l'impression qu'on courra plus vite si on a une armure, alors qu'en réalité c'est très lourd et qu'on avancera, beaucoup moins. En gros, la méditation des deux étendards des trois classes, c'est David que Saül, à qui Saül propose, David contre Goliath, Saül lui propose l'armure, et parce que comme ça il sera plus à l'abri, ça marchera beaucoup mieux. D'ailleurs, tous les soldats ont une grosse armure, ça va beaucoup mieux. Et quand David a l'armure, c'est trop lourd, vous parlez, il a 16 ans, c'est trop lourd. Jamais s'en tirer, il laisse l'armure, il part avec sa fronde. Et bien en gros, cette méditation, c'est évidemment, il annonce quelque chose de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ sera plus précis dans le sermon sur la montagne. Et bien ces deux méditations vous rendent, permettent d'incarner dans votre vie quotidienne, de façon pratique, dans votre cas particulier à vous, l'exemple de David. David contre Goliath. Alors on passe à la troisième semaine. Vous voyez que la deuxième semaine va déboucher sur certains sacrifices, parce qu'il n'est pas possible de tendre à la perfection sans qu'il y ait un certain renoncement à la richesse, sans qu'il y ait un certain renoncement à l'amour propre, sans qu'il y ait un certain renoncement à nos préférences, à nos goûts, à nos attaches de la terre. Et alors au fur et à mesure que ces renoncements grandissent dans une âme, je ne dis pas que ça se fait à la première retraite, mais au fur et à mesure que, disons, vite cela, les choses de ce monde perdent, la caquetterie du monde perd sa séduction. Les choses qui nous intéressaient avant, c'est l'impression qu'ils nous intéressent moins. L'envie des ventes qu'on pouvait avoir de se détendre en allant voir un film au cinéma, ça finit par même plus être une détente, à plus présenter le moindre attrait. Et au fur et à mesure, il y a une perception plus vive du besoin des âmes, plus vive de l'indulgence du prochain, une perception plus vive que nos paroles, nos explications, toutes nos belles démonstrations ne produisent rien. Vous avez dû en avoir déjà l'expérience, quand quelqu'un est peut-être intéressé par la religion, vous faites des belles démonstrations, vous êtes content de vous, vous avez l'impression que ça n'a rien produit. Ils n'ont pas bien compris. S'ils ont compris, c'est plutôt un bric-à-brac dans leur tête qui fait plus un obstacle plutôt qu'autre chose. Et au fur et à mesure, on commence à se rendre compte que Pour nous-mêmes, nous nous cassons les dents sur des petits défauts qui n'arrivent pas à partir. Pour le prochain, on se casse les dents sur le prochain, on essaie de bien démontrer, on n'arrive pas. On finit par s'apercevoir que même l'exemple n'y suffit pas. Même les conseils qui leur seraient profitables, même à court terme, n'y suffisent pas. Et on commence à s'apercevoir que si on ne souffre pas quelque chose à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'arrive pas à faire le bien qu'on voudrait, et même soi-même, il y a un moment donné, on n'arrive plus à se transformer. C'est-à-dire qu'initialement, la bonne volonté et le règlement de vie sont essentiels, ça c'est la première semaine, c'est la loi de Moïse et le pharisaïsme. C'est vrai qu'il faut commencer par être pharisien pour se convertir, mais il ne faut pas l'être tout le temps. Et à un moment donné, ça ne permet plus de monter. Et même, c'est plutôt un handicap, c'est plutôt lourd. À un moment donné, les progrès, on commence de façon presque naturelle à sentir que les progrès ne se font plus que quand on a quelque chose à souffrir pour le Christ. Au départ, ça peut se programmer, tel effort, tel sacrifice, tel renoncement. Et à un moment donné, on s'aperçoit que les efforts les plus féconds, c'est ceux que nous n'avons pas choisis, mais ceux que Dieu a choisis. Et en fait, on arrive, le sommet de la deuxième semaine des exercices, c'est la troisième semaine. L'âme chrétienne commence à avoir conscience du mystère de la croix, de la sagesse de la croix ou de la folie de la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé l'Église en apparence sur un échec. Et pourtant, ce n'est pas un échec. C'est un acte d'amour de Dieu dans lequel il a tout consumé et il a trouvé. L'être humain habituellement a besoin d'appui pour agir, pour avoir du courage. Il a besoin de se sentir aimé, de se sentir approuvé, de voir reconnu le bien qu'il fait, qu'on lui rende justice. Il a besoin quand même d'avoir un peu faim, d'avoir, de pas trop malade, de pas trop souffrir, d'avoir un peu de nourriture. Il a besoin d'un minimum d'appui. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, dans ces moments-là, a renoncé à tout ça. En s'appuyant uniquement sur quoi ? La volonté de son Père. Et le corps suivait quand même, mais sa volonté humaine aussi. Et c'est là-dessus, vous voyez, ce trésor dans un être humain a habité le même acte d'amour que celui qui existe dans la Sainte Trinité. Et c'est de là que pratiquement découle l'Église, découle toute cette fécondité pour les âmes. Et alors, la troisième semaine des exercices, c'est cette connaissance de la sagesse de la croix. La sagesse de la croix, et on ne peut pas commencer par là. Si vous expliquez à un chrétien qu'il faut souffrir pour aller au ciel, etc., il va en déduire que le bon Dieu est méchant, plus ça nous fait mal, plus il est content. Et vous avez des catholiques qui pensent ça, qui pensent « Oh, moi, je ne peux pas être un saint », sous-entendu, pour être un saint, il faut être très malheureux, souffrir beaucoup, parce que là-haut, il est abominable. Et si on lui dit « Mon Dieu, prenez tout », qu'est-ce qui va me tomber dessus? Alors on dit « Mon Dieu, prenez presque rien ». Mais bon, je ne veux quand même pas aller en enfer, mais le moins possible, s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas commencer par là. Et ça ferait du mal. Il y a des connaissances qui feraient du mal à une âme tant qu'elle ne commence pas à désirer. Vous arrivez à vous faire sentir qu'au sommet de la deuxième semaine, au sommet de ce désir de perfection que nous fait connaître notre Seigneur Jésus-Christ, on commence d'abord à ne plus regretter ce qui attire tellement les gens qui sont de mauvais chrétiens. On commence à même plus en avoir envie, même plus être vraiment intéressé. Ça commence à même plus être une détente. J'ai été frappé en lisant la vie de Saint Vincent de Paul, de percevoir finalement qu'il n'avait pas besoin de détente, pas besoin de distraction, pas besoin de vacances, alors qu'il avait une vie très dure, parce que sa joie de vivre, c'était justement ce qu'il avait, ses petites peines de tous les jours, mais c'était sa joie de vivre. Et on voit très bien dans ses écrits, il y a les conférences de Saint Vincent de Paul aux prêtres de la mission, et c'est vraiment son cœur qui déborde. C'est frappant de voir cet homme qui a sa détente, vous voyez, qui a sa joie de vivre, mais dans des choses qui nous coûteraient, nous. Alors, on s'y met très volontiers, on voit que c'est beau, on voit que c'est grand, mais vivre ça tous les jours... Et pour lui, c'est pas un fardeau à vivre, c'est sa joie. Vous voyez, il ne pourrait pas vivre sans ça. Lui, si on l'obligeait à vivre, on devine très bien que Saint Vincent de Paul, obligé à vivre avec au four des froids de robinet, aspirateur, congélateur, nature, nourriture raffinée, chaîne stéréo, etc., il aurait été malheureux comme une pierre. Mais... On commence, vous voyez, au sommet de la deuxième semaine, c'est pas vraiment une privation, on commence à deviner qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand encore dans l'être humain, ce qui apparaît dans l'Évangile où notre Seigneur montre que le couronnement de sa vie, c'est sa passion, ce que les apôtres n'arrivaient pas à comprendre. Eh bien, on commence à le deviner soi-même. Alors, la troisième semaine, c'est l'apprentissage du mystère de la croix. Je vais faire une parenthèse. Dans les exercices, on assimile vraiment que ce qui est proportionné à nos forces. Et en général, au moment où on assimile, les moments où on va progresser, il y a du remue-ménage dans l'âme, si vous voulez. En gros, là où est le front et où il s'agit d'avancer, où il est l'adversaire, où il y a des progrès à faire, les obus tombent de partout. Tant qu'on est en arrière du front, et qu'on montre, par exemple, un bon chrétien qui est au niveau de la deuxième semaine, qu'il est en train de faire la première semaine, c'est en général assez paisible. C'est au moment de la deuxième semaine, dans l'une ou l'autre des méditations, pas une méditation sur notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en général ça secoue, et souvent sur une petite bricole des affections familiales, une lubie, une préférence, un bibliothèque, des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, si vous voulez. Et puis ensuite, quand on aborde la passion, la résurrection, ça redevient très paisible. Parce que il y a une zone qui est la zone de front où il y a des progrès à faire, c'est la nourriture qui est proportionnée à l'âme. Au-delà, on peut regarder par anticipation, admirer, mais il n'y a plus de remue-ménage parce que c'est devenu une connaissance spéculative. Et vous voyez, les étapes des exercices, en fait, nous secouent plus ou moins en fonction du niveau de vie intérieure. Quelqu'un qui fait sa première retraite, en général, est très secoué par la première semaine. Il en garde un souvenir qui est fortement marqué. Et puis, le reste, très peu de choses. Mais ce n'est pas que le reste n'avait pas de marque dans l'âme, c'est qu'au départ, il est resté marqué par la nourriture dont il avait besoin pour un an environ. En général, par la suite, c'est la deuxième semaine qui se coupe plus, ou par la suite, c'est la troisième semaine qui se coupe plus. La troisième semaine, donc, c'est connaissance de... Enfin, l'âme devient féconde, si vous voulez. Nous sommes capables d'engendrer, quand nous connaissons, commençons à avoir la science de la croix, nous devenons capables d'engendrer les âmes à la vie éternelle parce que nous prolongeons en nous les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, alors les méditations de troisième semaine, elles commencent quand même par une chose intéressante, je vais attirer votre attention. On recommence l'histoire de la rédemption. La première méditation, la première contemplation de troisième semaine recommence cette vue en perspective, mais à un niveau plus élevé. Mais on recommence, la première méditation porte sur l'agneau pascal, parce qu'on reprend toutes les promesses, toute l'espérance d'Israël, pour revoir, si vous voulez, toute cette attente, et on commence à comprendre qu'elle est couronnée par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on continue la passion, après cette première contemplation, où il y a deux choses importantes, enfin trois choses importantes, l'agneau pascal, c'est-à-dire qu'on reprend toutes les promesses faites à Israël. Deuxièmement, la Sainte Eucharistie. Et troisièmement, le discours après la scène. Quand on lit attentivement l'Évangile, on voit que ce qui ressort le plus, c'est l'amitié de notre Seigneur. Il prolonge très longuement cette dernière soirée avec ses apôtres, et on sent qu'il y a une amitié très forte. C'est une chose dont on a besoin au départ des méditations sur la Passion, parce que pour avoir le courage de s'avancer sur le calvaire, ça peut être désirable intellectuellement, mais ça fait quand même peur. Vous savez, notre Seigneur lui-même a eu peur quand il l'a abordé, et ce n'est pas étonnant pour nous. Et alors, pour avoir le courage, d'abord, il faut se rendre compte de ses promesses, la marche vers la terre promise, et il faut se rendre compte qu'il nous aime. Et c'est pour ça que Saint Ignace fait arrêter les âmes longuement sur ce discours après la scène, parce que c'est là qu'on peut arriver à deviner que il y a vraiment une amitié très très étroite entre quelqu'un qui est baptisé et notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il y a cette perception très vive de cette amitié, on n'a plus trop peur et on arrive à suivre. C'est vrai surtout, c'est vrai pour les âmes qui sont capables de se nourrir de ces méditations sur la passion. Ça commence à être véritable, enfin la sainteté, une vie intérieure très élevée. Mais bon, je voulais... Alors les méditations, c'est simplement notre Seigneur dans sa passion. Mais alors, quand on en est capable, on arrive à deviner ce qu'il est en train de réaliser. Vous voyez que c'est toujours la même foi, c'est toujours le catéchisme, mais étape après étape, la foi prend vie. C'est plus une connaissance spéculative, la foi devient le sang qui circule dans nos veines, la lumière de notre intelligence, la structure qui nous rend intelligibles toutes nos actions, toute notre vie, tout ce que nous voyons autour de nous. Et ça se développe petit à petit, ça ne se fait pas d'un seul coup, ça devient une vie qui se développe. Je reprends la comparaison de l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit en maturité, il comprend mieux ce que sont ses parents pour lui, ce qu'il leur doit et ce qu'il en a reçu. Et alors la quatrième semaine des exercices, c'est la deuxième facette de la troisième semaine, la résurrection. Vivre de la foi, c'est posséder la résurrection. Et quand on contemple notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, on contemple quelque chose qui se passe dans l'âme, dont on a, ce d'entre vous peut en avoir un peu l'expérience, au moins par moment, on trouve en soi une joie qui ne vient pas des choses du monde, qui ne vient pas d'agréments humains, une joie, une force de caractère, une énergie, une stabilité dans les épreuves qu'on n'aurait jamais eu autrement. Et cette joie, elle vient de notre Seigneur ressuscité. Alors c'est, au départ, on peut très bien expliquer les 10 commandements de Dieu, on peut montrer que c'est logique. Plus tard, en deuxième semaine, on peut encore montrer que les béatitudes et la perfection évangélique, c'est la perfection d'un être humain. En troisième semaine, expliquer que des souffrances supportées pour l'amour de Dieu, puis pas n'importe lesquelles, celles que Dieu choisit pour nous, des souffrances ont un rapport et peuvent convertir les cœurs, retourner les cœurs, incapable de vous démontrer ça, de vous expliquer pourquoi c'est logique. C'est pas pour rien que saint Paul disait « folie, scandale pour les juifs, folie pour les gentils, folie pour les grecs ». On ne peut pas démontrer, et on peut encore moins démontrer, le rapport qu'il peut y avoir entre notre Seigneur ressuscité, c'est-à-dire cette gloire qui découle de ce qu'il a fait pour Dieu, et ce qui vraiment existe dans une âme chrétienne, quand elle imite un petit peu notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, dans ces contemplations, vous voyez, ça ne peut plus être des méditations, parce que le raisonnement intellectuel n'aboutit pas. Mais en contemplant notre Seigneur ressuscité, il y a une perception immédiate de ce que produit l'âme en nous. C'est une connaissance qu'on n'arrive pas bien à décrire et qui nous aide à deviner vers quoi nous incline la grâce. Alors cette quatrième semaine recommence comme la troisième semaine par une perspective sur tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire que vous avez toujours cette répétition des étapes de la miséricorde de Dieu. Et à nouveau vu avec, c'est une étape de plus, vous revoyez la même chose mais plus au même niveau. La première méditation c'est la résurrection, mais dans la résurrection, il y a la contemplation de l'âme de notre Seigneur au limbe. C'est-à-dire toute cette espérance d'Israël, qu'on a vu jusque-là, qui se réalise et qui s'achève dans la possession du Sauveur promis. Tous les justes de l'Ancien Testament qui découvrent le Sauveur et qui entrent dans le ciel. Eh bien, c'est une reprise de toute la perspective de l'Ancien Testament qui s'achève avec la résurrection. Vous voyez, en quatrième semaine, on recommence ce récit, comme en Israël, on reprenait tous les ans le récit de l'Exode, l'histoire du choix de Dieu et l'histoire de la rédemption. Et bien, dans les exercices, et en fait, dans la sanctification d'une âme, c'est toujours les mêmes étapes qui sont reprises, mais ils sont vus d'une façon tout à fait différente chaque fois que l'âme franchit une étape dans sa sanctification. Et alors, en gros, les exercices correspondent aux quatre étapes. Alors, on recommence quand on débute la quatrième semaine par les justes de l'Ancien Testament. Mais les justes vus sous l'aspect de la gloire, Abel, Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Élie, Jérémie, etc., puis la très sainte Vierge Marie. Et normalement, la quatrième semaine se termine sur la Pentecôte. Notre Seigneur dit à ses apôtres, « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit Consolateur et lui ne vous abandonnera pas. » C'est-à-dire que la mission de notre Seigneur sur la terre était limitée en temps. Les apôtres se sentent orphelins quand ils les quittent. Et il leur dit, « Mais vous ne perdez rien. Intérieurement, vous aurez cette chaleur en cœur, cette audace que vous aviez, que vous donniez, cette confiance en vous, que vous donnez ma présence, ma familiarité, les ordres que je vous donnais. Eh bien, vous l'aurez en vous. » Quand il leur dit, « Vous êtes utile que je m'en aille », il leur fait sentir qu'intérieurement, ce que produit l'habitation du Saint-Esprit dans une âme, c'est plus encore et en plus parfait encore ce qu'ils ressentaient par l'amitié personnelle que notre Seigneur avait pour eux. Et la dernière méditation de quatrième semaine, normalement, s'achève sur la Pentecôte, c'est-à-dire sur la contemplation de l'action du Saint-Esprit. Alors ça vous paraît une abstraction, mais on peut arriver à le deviner quand l'âme, étape après étape, s'est mise à deviner notre indigence, la miséricorde de Dieu presque maternelle, l'amitié personnelle de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses apôtres, vers lui versant son sang comme une mère qui risque sa vie ou qui nourrit son enfant, son propre sang, en nous engendrant à la vie éternelle par son sang. Et alors, que fait en nous le Saint-Esprit? Vous trouveriez, il n'y a pas de description ou de... C'est la propre vie de Dieu et on ne peut pas la décrire, notre intelligence ne peut pas la saisir. Et pourtant, il y a une certaine connaissance expérimentale parce qu'on vit quand on est en état de grâce. Évidemment, il y a des degrés suivant le degré de sainteté, mais dans le cadre des exercices, le petit peu qu'on peut arriver à saisir, normalement, on arrive à le saisir en quatrième semaine quand on médite sur la Pentecôte. Voilà, et bien j'ai terminé le cycle des étapes des dispositions de l'âme successives par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à la miséricorde de Dieu. L'âme ne peut pas s'ouvrir. Vous voyez, Dieu ne force pas l'âme comme un chirurgien avec son bistouri qui ouvrirait un grand coup, qui arracherait, pensant en faire attention au hurlement. C'est pour ton bien, crie pas si fort. Eh bien, Dieu ne fait pas comme ça. C'est tout doucement, il en trouve là où ça fera le moins mal possible, là où c'est encore quelque sorte presque naturel, presque humain de dire je voudrais en sortir, je ne suis pas fier de moi. Et puis tout doucement, l'âme s'ouvre, et au fur et à mesure que la vie surnaturelle se développe en elle, que les attaches humaines se défont, on peut ouvrir un peu plus sans que ça fasse mal. Et la dernière étape des exercices, normalement, c'est la sainteté. C'est-à-dire que les dernières contemplations ne pourraient être parfaitement réalisées que par quelqu'un qui serait un saint. Enfin, on peut en avoir quelques miettes, comme il est dit dans l'Évangile, enfin, comme la cananéenne qui disait à notre Seigneur dans l'Évangile, on laisse bien les chiens manger les miettes qui tombent de la table. Quand on arrive en quatrième semaine des exercices, eh bien, on vient chercher les miettes qui tombent de la table. Même à une première semaine, on arrive à grappiller. Même à une première retraite, je constate que les âmes arrivent à grappiller quelque chose de la quatrième semaine. Bon, eh bien, je vous disais que j'allais vous dire le secret de la fécondité des exercices. Comment se fait-il que des méditations tellement banales puissent avoir une résonance tellement profonde jusqu'au plus intime de la psychologie et de la personnalité de quelqu'un? Eh bien, je pense que vous comprenez mieux la réponse. C'est simple, il y a une croissance de la vie surnaturelle dans les âmes, comme il y a une croissance corporelle de l'homme, comme à chaque étape de la vie humaine, il y a une nourriture qui convient, il y a des efforts qui sont possibles, des actes de vertu qui sont possibles, des connaissances qui sont possibles, et qui servent de point de départ à la suite. Et bien, il en est de même dans la vie surnaturelle qui se développe de façon un petit peu semblable. Et alors, les exercices disposent notre âme et la conduisent comme pas à pas dans les étapes successives et permettent à une âme d'atteindre, disons, de mettre en ordre dans sa vie spirituelle et de réaliser le meilleur de la petite sainteté possible qui est actuellement possible. Voilà. Et alors, ces étapes ne sont pas une idée originale de Saint Ignace. J'ai essayé de vous faire sentir que c'est pratiquement la pédagogie, c'est la pédagogie de Dieu dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais vous remarquerez, je terminerai, vous constaterez que dans la messe, vous avez la même chose. La première étape de la messe, qu'est-ce que c'est? Mais la demande de pardon, le psaume judicame, le confiteor, le kyrie eleison, c'est cette première étape qui est indispensable avant de s'approcher de Dieu. La deuxième étape, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'épître, l'évangile, si possible le sermon, et puis le credo. Ce sermon doit être le témoignage de notre Seigneur, quoi, qui est par humaine, puisque c'est... Troisième étape, qu'est-ce que vous avez pendant le... Qu'avez-vous au moment de l'offertoire et du canon de la messe? Mais la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, on est vraiment physiquement en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié pour nous, pour nos péchés. Et la communion, eh bien la communion, c'est la quatrième semaine des exercices. Vous venez achever en vous ou vous unir étroitement à celui qui est mort pour vous sur la croix. C'est-à-dire que la communion correspond à la quatrième étape, les dispositions de l'âme au moment de la communion devraient correspondre à la quatrième étape des exercices. Dans le temps liturgique, vous connaissez tous l'étape du temps liturgique, l'avant, Noël, le carême, le Pâques, la résurrection et le temps après la Pentecôte. Alors, dans l'année liturgique, le temps après la Pentecôte est très long parce que c'est le temps dans lequel nous vivons actuellement. La signification symbolique du temps liturgique est un petit peu différente. C'est la raison pour laquelle le temps après la Pentecôte est le plus long. Mais les étapes sont les mêmes. L'attente du Sauveur, la prise de conscience que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'un Sauveur, la connaissance du Sauveur, les efforts qui vont être dans le carême, mais ne sont plus les mêmes. Ces efforts pour tendre à la perfection, c'est plus simplement les efforts pour s'arracher au péché. Et puis la passion et la résurrection, la semaine sainte, puis le temps après la Pentecôte. C'est-à-dire que ces étapes, donc nous les retrouvons pratiquement imprégnées dans toute la vie de l'Église et qui se répètent année après année. Dans la pédagogie divine, on constate que les âmes ont besoin, on peut constater dans la vie de l'Église, que les âmes ont besoin de cette répétition dans laquelle on revoit toujours les mêmes choses, et pourtant ces choses sont toujours nouvelles, parce que si nous ne gaspillons pas notre vie, chaque année, on est normalement un petit peu plus sain, et on comprend mieux certaines choses qui avaient échappé la fois précédente. Vous devez aussi comprendre ce que vous ont peut-être dit des personnes pour vous inviter à refaire une retraite de Saint-Ignace que vous auriez déjà faite auparavant. Revenez, il n'y a pas de retraite qui soit semblable. Alors quelquefois on se dit, ils disent ça pour qu'on revienne, parce que c'est bon, ça fait partie de la vitrine ou de l'image de marque, et je vous assure que c'est vrai. les dispositions de l'âme ne sont pas les mêmes, et plus on est saint, plus on a l'impression que la retraite est différente. Que de fois ai-je entendu, cette retraite de 8 jours, les retraitantes qui ont au moins 3 retraites derrière elles, elles ont l'impression de comprendre pour la première fois leur méditation, même en première semaine, de voir pour la première fois, comme si on n'avait jamais prêché les retraites comme ça. Or, on les prêche toujours à peu près pareil. Mais c'est intérieurement que la résonance est tout à fait différente, parce qu'il y a une aptitude à assimiler certaines choses qui n'étaient pas assimilées antérieurement. Eh bien, j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. Monsieur l'abbé, si vous posiez publiquement les questions que vous m'avez posées tout à l'heure au repas, ça pourrait peut-être intéresser les filiales ici. Attendez. Je me souviens plus très bien parce que... Et de quoi est-ce qu'on a parlé? Ah oui, la trop grande rigidité de la méthode de méditation de Saint Ignace. La méthode de méditation de Saint Ignace, en fait, est naturelle. L'objection qu'on fait, c'est qu'on n'est pas obligé, on n'est pas tenu de se coincer l'intelligence dans un truc qui est un véritable lit de Procuste. Voyez, premier prélude, deuxième prélude, troisième prélude, donc mise en présence de Dieu, composition de lieu, grâce à demander, méditation, un premier point, deuxième point, troisième point, et pour certaines, quatrième point, cinquième point, et puis ensuite le colloque. Alors tout ça, c'est contraignant, ça dessèche l'âme. Bon, alors d'abord, dans les exercices, l'essentiel, c'est pas exactement la méthode, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, ce qui constitue la puissance des exercices, c'est pas exactement une méthode de méditation, c'est cette succession de dispositions de l'âme. Mais il est vrai quand même que la méthode de Saint Ignace, en fait, elle est spontanée. Un petit peu comme pour apprendre à aller en vélo, on est obligé d'apprendre au petit garçon que quand il penche d'un côté, il faut tourner le guidon du même côté, puis ça le redresse. Au bout d'un certain temps, il n'y pense même plus, il pédale, mais il le fait quand même. Quand il perd l'équilibre en vélo, il tourne le guidon, il reprend à peu près son équilibre. Alors, dans une méditation, il est inévitable de commencer par un acte de présence de Dieu, sinon ce sera facilement spéculatif, ce sera facilement une dissertation philosophique, surtout pour les intellectuels. Ils ajusteront des belles idées, ce ne sera pas un acte dans lequel on se présente devant Dieu comme un enfant. Donc il y a nécessairement, premier mouvement, disposition psychologique, l'acte de présence de Dieu. Deuxièmement, la composition de lieu, ce n'est pas indispensable, on peut la sauter. D'ailleurs, dans les méditations du Père Dupont, qui ont été écrites par un des premiers disciples de Saint Ignace, il n'y a pas de composition de lieu. Mais souvent, notre imagination vagabonde, et il est bon de la canaliser, mais la composition de lieu est relativement souple. On n'est pas obligé de prendre celle que donne Saint Ignace, il suffit simplement que l'imagination soit à peu près canalisée sur le sujet par quelque part un tableau ou un souvenir qui frappe. Troisièmement, la grâce à demander, c'est indispensable. L'expérience montre aussi que si on médite et qu'on n'a pas dans l'esprit clairement sur quoi on va méditer, quelle grâce on attend, qu'est-ce qu'on voudrait mieux comprendre, enfin, vous voyez, si on n'a pas clairement dans l'esprit le créneau sur lequel on va méditer, je fais appel à votre expérience, c'est vrai, je crois que l'expérience de tout le monde confirme la même chose. Quand on n'a rien préparé la veille au soir, qu'on se met le matin à genoux, tout le monde dit « je vais faire une méditation », c'est n'importe quoi. On a bien une idée pieuse par-ci, une idée pieuse par-là, mais il est nécessaire d'avoir un but clair dans l'esprit pour que l'esprit ne vagabonde pas trop. Donc vous voyez, la grâce à demander au départ, en fait, à moins que la méditation soit une perte sèche, si vous voulez, en fait, c'est naturel, c'est quasiment inévitable. Et le colloque, c'est-à-dire arriver à la fin de ses réflexions, et puis donner la main vers notre Seigneur en disant « je manque de sainteté, vous en avez pour deux, ayez pitié de moi, je manque de courage, vous en avez pour deux, ayez pitié de moi, etc. » Bon, mais en gros, c'est quasiment naturel. On finit toute méditation en disant « Fils de David, ayez pitié de moi, comme les aveugles ou les lépreux dans l'Évangile. » Donc vous voyez, ces étapes qui paraissent un peu artificielles, en réalité, n'importe quelle méthode de méditation ou n'importe quelle pratique de méditation vous amènera à les faire instinctivement. Donc je ne crois pas que ce soit un cadre artificiel.